Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Elle a été la reine des salons littéraires et artistiques dans le beau Paris du 19e siècle, inspirant aussi bien les poètes et les écrivains que les peintres et les sculpteurs. Apollonie Sabatier, dite la présidente, est au centre d'un premier roman documenté édité chez Arléa. Baudelaire et Apollonie, tel est le titre de l'ouvrage de mon invité Céline Debelle, et également présente avec nous ce matin Oriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Le réveil culturel, c'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Céline Debelle.
Bonjour.
Alors, il y a un sous-titre à votre ouvrage Baudelaire et Apollonie, le rendez-vous charnel.
Oui, parce qu'en fait, c'est le sujet du roman. Le rendez-vous charnel, ça commence le soir. Baudelaire rencontre Apollonie et ça se termine quelques heures plus tard. Et là, beaucoup de choses changent pour Baudelaire et pour Apollonie. Parce que Baudelaire a été amoureux fou, idolâtre d'Apollonie Sabatier.
Il n'était pas le seul.
Non, il n'était pas le seul. Il y en avait beaucoup, dont Théophile Gautier, Flaubert, etc. Il y en a beaucoup. Et pendant 5 ans, il était amoureux fou. Il lui a écrit des poèmes qu'il lui envoyait par la poste, par courrier. Apollonie lui a inspiré 10 poèmes qui sont dans les fleurs du mal. Il lui a envoyé avec une écriture déguisée, avec des poèmes anonymes parce qu'il avait peur du ridicule. Comme toujours Baudelaire, et elle avait compris. Au début, elle croyait que c'était une blague de Gautier ou de Nerval, et très vite, elle a compris que c'était Baudelaire. Ben, elle ne le disait pas, parce qu'elle tenait donc ce salon chez elle le soir à Paris, le dimanche soir, il y avait un dîner, puis après on passait au salon, et il y avait beaucoup de monde, dont Flaubert, Théophile Gautier, Baudelaire bien sûr, et d'autres. Et Baudelaire avait toujours peur qu'elle révèle que c'était lui, l'amoureux masqué, ce dont il aurait eu honte.
Amour ou des lettres d'amour qu'il lui envoyait?
Des deux, mais des lettres d'amour. Il avait peur du ridicule. Du ridicule, c'était le dans les lettres qu'il lui envoyait les poèmes. Il lui disait toujours Vous allez peut-être pas aimer, c'est ridicule, mon torchon est ridicule. Enfin, pas ces mots-là, mais dans ce genre. Il était toujours très, très inquiet de ça. Et puis, pendant 5 ans, donc, il venait au dîner avec ses autres amis du monde de la peinture, des beaux-arts, donc, et de la littérature. Et puis, il y a eu ce fameux procès, avec le verdict le 20.
Autour des fleurs du mal, effectivement.
Pour le procès du fleur du mal.
Et il a demandé à Apollonie de venir témoigner.
Il a demandé à Apollonie de lui préparer une lettre de soutien, parce qu'il avait, lui, Flaubert avait eu, début de l'année, un procès, il avait été soutenu par l'impératrice Eugénie. Et 2 jours avant, Baudelaire a paniqué, il a dit, mais moi je n'ai personne. Et il lui a envoyé une lettre, il lui a dit, il me faut une femme, cette fameuse lettre qui est donc reproduite dans le livre. Et il a pensé à Apollonie, qui a essayé de lui trouver quelqu'un, mais un artiste, mais ça n'a pas donné grand-chose. Malheureusement, les fleurs ont été condamnées, une amende de 300 francs.
Oh là là, mais quelle précision! À vous entendre comme ça ce matin, Céline Debelle, on a l'impression que vous êtes universitaire, historienne. Et ce que vous racontez dans ce livre, et que je trouvais ça très touchant, c'est que la rencontre, votre rencontre avec Apollonie ne se fait pas d'ailleurs dans les textes et dans les poèmes de Baudelaire. Elle se fait quand vous allez découvrir une des sculptures la représentant.
Tout à fait. Je suis passionnée d'art, donc je suis toujours souvent dans les musées. Et cette sculpture, Femme piquée par un serpent, qui est au musée d'Orsay, à marbre, qui représente une femme qui est contorsionnée, qui se tord, enfin qui a la tête en arrière, les reins cambrés. Je me suis étonnée, je me suis dit, mais qui a pu être le modèle de cette sculpture? Et j'ai découvert Apollonie Sabatier, qui elle-même était la muse de Baudelaire, qui lui inspirait 10 poèmes dans les fleurs du mal, etc. Et donc j'ai dit, voilà, je vais partir de cette sculpture.
Mais alors, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette sculpture? Quelle est l'image du modèle que vous faisiez à partir de la sculpture vue au musée d'Orsay, Céline Debelle?
Je trouvais déjà que c'était une femme audacieuse d'avoir posé pour cette sculpture à l'époque. On est en 1847, la sculpture a été exposée au salon de 1847. J'ai dit, mais quel modèle a pu oser poser ainsi? Et j'ai découvert par là, donc Apollonie, qui elle-même est une femme audacieuse, libre et très en avance sur son temps, qui est une femme remarquable, qui a été traitée de courtisane depuis un siècle et demi dans toutes les biographies. Et je ne trouve pas que ce soit une courtisane, c'est simplement une inspiratrice des peintres et des poètes, comme vous l'aviez dit, qui tenait un salon, qui présidait un salon. Donc elle arrivait avec tous ces gens brillants, tous ces génies du milieu. Du tournant du 19e, elle arrivait à maîtriser les conversations, à les animer, etc. Il y avait, la plupart du temps, c'était des hommes qui étaient là, donc c'était important, et tout le monde la respectait. C'est une femme extrêmement respectée, aimée, adorée par tous ces hommes-là. Flaubert l'adorait, d'ailleurs il s'en est inspiré en partie pour la maréchale de l'éducation sentimentale. Gautier l'adorait, c'était une amie, plus qu'une amie. Il lui a écrit deux poèmes, La robe rose et Apollonie, qui sont dans ses recueils de poèmes. Et aussi une lettre qui s'appelle Lettre à la présidente, qui est une lettre érotique qu'il lui a envoyée.
Enfin, ouais, faut dire qu'elle était très belle, Apollonie.
Très très belle, il suffit d'aller voir les sculptures au musée d'Orsay. Il y a un buste d'Auguste Clésinger qui est magnifique. Et puis cette fameuse sculpture où elle est nue, c'est un marbre nu, où là on la voit, et elle est très très belle. Elle avait beaucoup de charme, elle était intelligente, cultivée. Elle avait réussi à rassembler autour d'elle tous ces gens, ces poètes, et ces peintres, et ces hommes de lettres de l'époque. Donc elle avait un énorme charisme et elle était aimée et respectée par tous ces gens-là.
Alors c'est ce qui est complètement passionnant dans votre livre, c'est la partie documentée. Parce que en fait, Céline Debelle, vous faites un portrait en creux de Apollonie, hein, c'est-à-dire que Baudelaire, le pauvre Baudelaire, il vous sert de prétexte.
Oui, parce que Baudelaire, on le connaît, mais j'ai quand même voulu parler de Baudelaire sous un autre angle, dans un moment un peu particulier de sa vie. C'est une semaine jour pour jour après le procès.
Il est très vulnérable.
Très vulnérable, anxieux, indécis, regrettant ce qu'il a fait, etc. Enfin, Baudelaire, toujours dans les paradoxes. Baudelaire, amoureux idolâtre et à la fois misogyne, c'était être les deux, comme tout ce qu'il fait. Alors, on a longtemps dit que c'était un fiasco, ce rendez-vous charnel. Ce n'est pas un fiasco pour moi, parce qu'une lettre d'Apollonie l'atteste que ce n'est pas un fiasco au sens fiasco. Il n'y a pas eu de défaillance. Ça, c'est Baudelaire. Il y a un fiasco entre guillemets, sans défaillance, encore le paradoxe baudelairien. Et donc, ça m'a passionné de parler de Baudelaire, d'entrer dans son personnage, dans ces quelques heures-là. Il y a quelques heures, en fin de compte, où ils sont ensemble. Le rendez-vous charnel, le livre, c'est quelques heures.
Avec quelques documents, c'est-à-dire vous avez bien sûr travaillé, oui. Céline Debelle, hein, donc vous êtes documenté.
Beaucoup.
Mais alors, qu'est-ce qui appartient à la fiction dans votre livre Baudelaire et Apollonie?
Alors, je le dis à la fin, donc dans les notes, c'est l'histoire d'amour est vraie, le rendez-vous est vrai, mais des lettres l'attestent. Je suis partie du courrier, d'ailleurs, de ces lettres-là entre les deux, pour imaginer, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait que ça a eu lieu, on connaît les lettres, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc j'ai imaginé cet instant à partir des personnages que je connais, c'est-à-dire Baudelaire, Apollonie, Sabatier, et à partir de là, c'est une fiction. Mais tout l'environnement, tout le contexte est lui très documenté. J'ai fait très attention à tout, même aux mots. Je n'ai pas employé de mots qu'on n'employait pas au 19e. J'ai regardé les vêtements, les parfums, les étoffes, les endroits où ils vont, comment ils s'habillent, enfin... Tout était vraiment précis, la politique du moment, en fait, tout le contexte est là et tous les noms cités dans le roman ont existé.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
avec votre regard d'aujourd'hui, avec les mots de 2019, avec votre sensibilité, Céline Debel, comment présenter Apollonie? Diriez-vous que c'est une féministe, par exemple?
Peut-être pas, ce mot-là. Je vois pas pour elle ce mot-là. Je parlerai plutôt de femme libre, mais au sens noble, pas libertine, hein, libre au sens latin, libère. Libre, aimant passionnément les arts, étant très à l'écoute de la littérature, des gens d'esprit, aimant beaucoup l'esprit, je la définirais comme une inspiratrice d'abord, une muse, quelqu'un de remarquable, surtout à son époque. Parce que tenir un salon littéraire, quand on vient d'un milieu modeste comme elle, qu'on est autodidacte, elle est née d'une... Sa mère était lingère et elle est née d'un adultère préfectoral, elle a été reconnue par un grognard, enfin c'est une histoire. Sa vie à elle, c'est déjà un roman à elle seule. Et donc c'est ça, je dirais, une femme libre, inspiratrice, une muse libre, voilà, on va dire.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Les mots de Baudelaire, la voix et la musique de Serge Gainsbourg. Céline Debel, là, il parle pas d'Apollonie, hein. Non, dans ce poème, d'une autre courtisane, Jeanne Duval.
Jeanne Duval qui était sa compagne pendant toute une vie, jusqu'à presque la fin. Il l'a connue très très jeune. Et effectivement, dans le livre, j'en parle. Jeanne Duval revient régulièrement parce que Apollonie espérait détrôner Jeanne Duval et prendre sa place. Elle était vraiment prête à vivre avec Baudelaire. Et c'est bon, je te raconte pas la fin, mais on la devine. Mais donc, voilà.
Vous avez passé combien de temps avec Baudelaire et Apollonie, Céline Debel?
2 ans et demi, et c'était très agréable comme compagnie. Et j'ai passé de bons moments avec eux, oui, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup regardé tout ce qu'ils aimaient, les peintures, où ils allaient, quel théâtre, quelle pièce, qu'est-ce qu'ils faisaient,
Sortant des mondanités du Paris du 19e siècle, vous avez pu mesurer aussi l'évolution de la place des femmes dans cette société.
Ouais. C'est-à-dire qu'Apollonius serait aujourd'hui quelqu'un qui pourrait avoir un salon. Il n'y en a plus, malheureusement. Mais s'il y avait un salon littéraire, elle pourrait être présidente et vivre comme elle vivait à l'époque. On ne dirait pas qu'elle a un amant qui l'entretient. On dirait soit elle est mariée, soit elle a un compagnon. Et puis elle écrirait, elle peindrait, parce qu'elle a peint aussi. Elle a exposé, elle aussi, des petites aquarelles, des miniatures. Elle se débrouillait parce qu'à un moment, elle a eu un revers d'argent. Son amant qui l'a supporté financièrement l'a quittée et elle s'est retrouvée sans argent. Elle n'a pas voulu du tout l'argent qu'il lui proposait par mois. Et elle a dit non, je me débrouille. Et là, elle était obligée de vendre ses meubles, de ses peintures, de faire elle-même de la peinture. Elle n'a jamais été intéressée par l'argent. Donc je ne vois pas pourquoi on l'appelle courtisane, qui par définition, une courtisane est quand même intéressée par l'argent. Elle, jamais, quand elle avait 16 ans, il y avait un comte qui était fou amoureux d'elle quand elle était à l'opéra, et elle préférait un ténor qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas le sou, mais elle était amoureuse de ce ténor. Et le comte, non, il ne s'est rien passé avec ce comte-là. Donc, l'argent ne l'a jamais intéressée. Ce qui l'intéressait, c'est l'esprit, c'était la gaieté. Elle aimait beaucoup tous ces gens, parce que, en fin de compte, à part Baudelaire, qui était un peu sinistre dans son coin, parce que c'est le personnage et qu'il disait pas grand-chose, mais tous les autres, Théophile Gautier, par exemple, ou Flaubert, c'était des joyeux lurons. Ils venaient à ces soirées le dimanche pour se détendre de leur travail, parce qu'ils travaillaient tous évidemment beaucoup, et pour rigoler, s'amuser. On dînait, on parlait de politique, on parlait de littérature, on parlait de peinture, bien sûr, puis après on allait au salon, et puis on faisait des jeux, on faisait des charades, on écrivait sur un album Amicorum où on mettait des petits dessins, où on mettait des poésies un petit peu légères, enfin on rigolait, c'était des soirées de détente pour eux, les repas chez Madame Sabatier, chez la présidente, le dimanche soir, c'était se détendre. Ernest Feydeau venait, Meissonnier aussi un peintre, enfin il y avait beaucoup de monde.
Qui sont les Apollonie Sabatier d'aujourd'hui, d'après vous, Céline Debelle?
C'est très difficile, dans la mesure où il n'y a pas de salon littéraire. Après, on aurait pu dire la comtesse de Noailles, mais c'était pas aujourd'hui. Anna de Noailles pourrait lui ressembler, différemment, parce que bien sûr, c'est pas le même personnage. Mais aujourd'hui, dans la mesure, les structures sont pas les mêmes. La société n'est pas la même. Donc on peut pas retrouver vraiment une femme qui reçoit chez elle une fois par semaine tout ce qui compte de littérature et de peinture à Paris, par exemple, de ce monde-là. Je ne vois pas, non. Je crois qu'elle a pas de...
Alors vous dites courtisane, non, mais muse, oui, pour Apollonie.
Oui. Tout à fait, muse. Muse de Baudelaire, d'abord. 10 poèmes dans les Fleurs du Mal, c'est pas rien. Dont des magnifiques poèmes. À celle qui est trop gaie, bien sûr, le premier poème qu'il lui a envoyé. Réversibilité, l'aube spirituelle, confession, le flambeau vivant. Que diras-tu ce soir? Hymne, tout entière, harmonie du soir, fameux poème Harmonie du soir, inspiré par Apollonie. Le flacon. Magnifique poème aussi. Donc sans Apollonie, on n'aurait sans doute pas eu ces poèmes-là, ces 10 poèmes-là. Et elle a inspiré aussi, bien sûr, Clésinger, qui est le sculpteur Auguste Clésinger. Elle a inspiré d'autres poètes, je vous l'ai dit, comme Gautier ou Calonne. Et elle a inspiré, en fait, tous ceux qui venaient là étaient sous le charme et étaient inspirés, d'une manière ou d'une autre, par cette femme.
Baudelaire et Apollonie, c'est édité chez Arléa, ce premier roman qui mêle la fiction et votre documentation, et des faits réels. Hein.
Exactement.
Parce que vous êtes journaliste, ce n'est pas rien de rappeler Céline Debel. Bonjour Oriane Joncourt du magazine Transluge. Alors, on était dans un salon du 19e à Paris avec Apollonie et Baudelaire. Qu'est-ce que cela vous a inspiré,
Mais Oriane Joncourt? Je trouvais ça merveilleux de vous écouter et je trouve ça très bien, en effet, de rendre un peu grâce et hommage à ces femmes du 19e qui ont été certes immortalisées par la Dame aux Camélias, par Nana, mais vous l'avez dit, souvent on dit que ce sont des femmes qui en effet avaient besoin d'argent et qui se vendaient, mais cette statue entre la muse, la créatrice,
l'inspiratrice
qui en effet interdisait toute ingénuité puisque dans le 19e siècle les femmes n'avaient pas d'autre choix que de se vendre parfois aux plus offrants. Eh bien, je trouve ça intéressant aujourd'hui de rendre à ces femmes un peu leur stature et le rôle qu'elles ont joué. Et je vois que ça se fait de plus en plus, par exemple au théâtre, mais beaucoup. On a mis en scène récemment une très belle Dame aux Camélias, bon avec un tragique que n'avait pas la vie de Sabatier. Mais je trouvais ça assez passionnant de rendre à ces femmes une stature aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui se passe dans la France du 21e siècle, Oriane Joncourt, vous qui êtes la rédactrice en chef des pages littéraires de ce magazine consacré à la culture.
Eh bien, écoutez, la culture, justement, elle est en titre de notre magazine, puisque nous avons titré « La culture sauvera l'Europe ». Comme beaucoup de gens, en ce mois de mai, nous avons beaucoup pensé à l'Europe, et évidemment jusqu'à maintenant.
Mais dites-moi, le titre de votre magazine Transfuge, il met un point d'interrogation ? Il est dans la
Non, alors on est dans l'affirmation, parce qu'on est dans voilà.
Vous êtes bien optimiste.
Voilà, absolument. Et d'ailleurs, on réfléchit beaucoup à cette phrase, qui est une forme de volontarisme, d'incantation, enfin, chacun y lira ce qu'il veut, mais en tout cas c'est quelque chose dont sont persuadés les gens qu'on a interrogé pour ce vaste dossier consacré à la culture européenne contemporaine, puisque on fait un grand entretien avec Laurent Godet, écrivain, il a eu le Goncourt, vous le savez, poète, dramaturge, et puis qu'il a sort un texte qui s'appelle Banquet d'Europe, qui va ensuite donner une pièce au Festival d'Avignon, pièce très attendue, mise en scène par Roland Osay. Mais donc là, le texte Banquet d'Europe, c'est une relecture poétique, lyrique, de ces deux derniers siècles européens. Donc, en vérité, il part à peu près de l'industrialisation, du colonialisme, pour remonter jusqu'à aujourd'hui, et porter l'histoire de l'Europe avec vraiment un sens de l'épique, en disant ça suffit maintenant, puisqu'on voit bien que la première critique de l'Union européenne est celle d'être une sorte de ventre mou, un régime institutionnel, sans enthousiasme, sans poésie, sans ferveur révolutionnaire. C'est quand même ça la première critique qu'on fait à l'Union européenne. Eh bien lui, il dit non. Il dit l'Union européenne, la fondation de l'Union européenne a été, au cours de ces deux derniers siècles, une des plus belles aventures humaines. Parce que où trouvez-vous sinon 27 pays qui choisissent de s'unir et de vivre ensemble et d'instaurer un régime de paix et de démocratie? Alors bien sûr, il ne nie pas et au contraire, il met l'accent sur les crimes coloniaux, sur les crimes de la Seconde Guerre mondiale, sur les méandres du capitalisme libéral, sur la crise de 29, il raconte tout ça. Mais il raconte ça comme un grand poème épique, et je trouve ça absolument passionnant. Alors, dans les autres domaines, puisque nous avons donc quatre domaines à Transfuge, eh bien, en théâtre, il y a ce fantastique festival qui est Chantier d'Europe, qui a lieu au Théâtre de la Ville, et qui invite des compagnies de toute l'Europe, des compagnies méconnues, grecques, italiennes, espagnoles, pour justement présenter leur spectacle, et chacun à leur façon nous disent quelque chose sur ce qu'est la culture européenne aujourd'hui. C'est par exemple, il y a un très beau spectacle argentin et espagnol, puisque c'est donc européen, qui nous raconte les préoccupations écologiques de l'Espagne, de la jeunesse espagnole aujourd'hui. Et puis enfin, nous faisons une série de portraits de jeunes artistes européens, ceux qui sont présentés à la Fondation Cartier, aussi sur la jeunesse européenne. Et donc, nous avons des Russes, des Français. Il y a par exemple Myriam Haddad,
française. Ah, donc l'Europe au sens large, hein, avec la Russie incluse.
Oui, alors bah oui, ça c'est la grande question. Oui, je crois qu'ils ont fait l'Europe géographique. Mmh. Ça c'est la Fondation Cartier. L'Europe géographique. Et donc il y a un Russe, mais il y a Myriam Haddad, qui est une femme absolument passionnante, qui a fait, vous l'avez peut-être vu, l'affiche du Festival d'Avignon, qui est une peintre qui revient des couleurs extrêmement vives et qui a un univers très onirique avec des crocodiles, et qui est une Française d'origine syrienne. Et ça, c'est très frappant dans cette jeunesse européenne, cette culture européenne qu'on met en avant. C'est à quel point cette culture européenne est finalement une culture mondiale, puisque chaque artiste porte en lui, porte à travers son histoire, l'histoire du monde, qu'elle soit syrienne, africaine, maghrébine ou autre.
Merci, merci beaucoup.
Je vous en prie,
ça donne envie de lire ce numéro de Transfuge. Merci Auriane Jeancourt et merci Céline Debelle d'être passée. Céline Debelle, auteur de Baudelaire et Apollonie, le rendez-vous charnel chez Arléa. Vous pouvez désormais réécouter cette émission en passant par franceculture.fr. On se retrouve demain. Bonne matinée sur France Culture.